I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. Cet épisode, c'est le replay de mon émission hebdomadaire sur Clubhouse à 18h, Happy Work, où nous débattons d'un sujet avec des coachs, avec des spécialistes des ressources humaines. Et bien entendu, avec vous, si vous voulez participer à la discussion. Alors, cette semaine, nous avons parlé des personnes toxiques, que ce soit un collègue, que ce soit un manager, comment gérer une personne toxique dans son entourage professionnel. Eh bien écoutez, j'espère que nous allons vous apporter des réponses et n'hésitez surtout pas, tous les vendredis, 18h, rejoignez-nous sur Clubhouse, Happy Work ou Gaël Châtelain-Berry. Bonne écoute. Alors, les amis, mille merci d'être sur cette room hebdomadaire. Donc, c'est la rentrée pour nous aussi, même si Happy Work avait déjà fait sa rentrée la semaine dernière. Et on attaque avec un sujet qui est quand même plutôt sérieux, qui est comment est-ce qu'on gère un collègue ou un manager toxique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet et avant de donner la parole au cher petit point vert qui m'accompagne, je voulais juste préciser que dans cette room, j'aimerais bien qu'on ait deux grandes parties. C'est d'abord définir qu'est-ce que c'est de quelqu'un de toxique. Parce que bien souvent, derrière toxique, on imagine les pervers narcissiques, et c'est une maladie, un pervers narcissique, c'est-à-dire que ça relève de la psychiatrie, ça ne relève pas de l'éducation, c'est de la psychiatrie. Quand on parle de toxique, ça peut être aussi par des petites choses. Et j'avais écrit un article sur le sujet, comme quoi on pouvait, sans même s'en apercevoir, nous-mêmes être toxiques avec nos collègues ou avec notre manager, etc. etc. Donc déjà, peut-être la première partie, ça sera définir qu'est-ce que c'est que d'être toxique et comment on repère quelqu'un de toxique, parce qu'il y a aussi les gens qui sont toxiques autour de nous et on s'en aperçoit pas vraiment. Donc comment est-ce qu'on repère quelqu'un de toxique? Et enfin, la deuxième partie, ça sera vraiment comment est-ce qu'on gère les personnes toxiques. Alors, je vais pas déflorer le sujet et je vais laisser la parole aux camarades qui nous entourent. Donc je vous présente Laura Nielenweck, Lena Aka et ce cher Emmanuel Moreau qui sont avec moi, les spécialistes de plein de choses, des coachs ou des spécialistes des RH. Bien entendu, vous pouvez monter sur le stage pour partager vos expériences, pour poser les questions également. On est là pour essayer d'y répondre. Alors, Emmanuel, pour toi, quelqu'un de toxique, c'est quoi? Alors, on est bien entendu dans le cadre du travail, hein, puisque c'est Happy oui. Work.
Bah oui.
Alors.
Alors en fait, j'avais fait, quand je dis j'ai préparé, c'était un petit peu une boutade, c'est que j'avais fait il y a très longtemps un post sur savoir gérer les personnes toxiques et j'ai trouvé ça génial que ça revienne en début de rentrée et tout ça. Et du coup, en préambule, pour ceux que ça intéresse, je pourrais même envoyer un PDF, un PowerPoint que j'avais fait. Pour moi, en fait, et je m'appuie sur les écrits, tu connais peut-être d'ailleurs Gaël, de Christophe Médici, je ne sais pas comment on dit.
Non, ça ne m'évoque voilà. Rien, mais je t'en prie, lance-toi, éclaire-nous.
C'est un psychosociologue, coach en communication et développement personnel, conférencier comme toi. Et en fait, il décrit une galerie de 5 profils toxiques. Qui sont le harceleur, c'est celui dont le stress et la terreur sont ses maîtres mots, le manipulateur, celui qui souffle le chaud et le froid, l'immature, c'est en fait le manager ou le collègue qui est un ado attardé qui te fait régresser, en quatrième, le paresseux, c'est celui qui délègue son travail tout le temps, et puis le psychorigide, c'est celui qui trouve toujours à redire dans ce que tu fais. Donc voilà, moi je dirais les 5 profils qu'on pourrait déceler au sein d'une entreprise.
Ça nous vend du rêve d'entrée, ça nous met dans une bonne ambiance que je ne sais pas vous, mais Emmanuel, quand tu décrivais ces 5-là, honnêtement dans ma carrière, alors je commençais à être un peu vieux, je les ai tous croisés.
Et, d'accord.
Non, mais sérieusement, chacun de ces profils, c'est super intéressant. Garde-les en tête auprès de toi, parce qu'on va probablement revenir sur chacun des profils individuellement, parce que je trouve ça hyper intéressant. Léna, est-ce que tu as quelque chose à rajouter au bon élève ? On va appeler, Emmanuel, on va t'appeler le bon élève pour cet épisode de Happy Work. Léna, est-ce que par rapport au bon élève, tu veux rajouter quelque chose sur toi, ta définition de quelqu'un de toxique ?
Waouh, alors déjà, je suis épatée par Emmanuel aujourd'hui, parce que moi, je n'ai rien préparé. Pour moi, un manager toxique, c'est quelqu'un qui va créer, qui va générer du stress. Voilà, c'est un agent stresseur. Je vais appeler ça comme ça.
J'aime bien ce résumé, parce que c'est vrai qu'en fait, au-delà des typologies qu'Emmanuel a mis en avant, c'est vrai que le point commun de tout ça, c'est que ça génère du stress chez... nous, en tant que collaborateurs ou collaboratrices ou que collègues, parce que tu as dit manager, Léna, mais j'insiste vraiment super lourdement, il y a aussi le collègue toxique, parce que comment ça... Emmanuel, c'était quoi le nom du profil ? Le feignant ? Le paresseux ?
Le paresseux.
Ouais, on l'a tous eu, ce collègue qui, en réunion, dit « Ouais, ouais, je m'en occupe, pas de problème », et qui finalement fait rien, et c'est toi qui dois récupérer le boulot derrière. Donc, il y a aussi ce toxique chez le collègue. Toi, Laurane, est-ce que par rapport aux cinq catégories d'Emmanuel, au fait que quelqu'un de toxique soit quelqu'un qui génère du stress, comme l'a très bien dit Léna, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ah oui, tu as voulu passer en dernière, Laurane. Ben voilà, c'est plus compliqué. Eh oui, non, tu es puni.
Ouais, j'ai été punie. Non, mais du coup, c'était super riche parce qu'en effet, ces cinq profils, un peu comme toi, moi, je les ai un peu rencontrés. Et surtout que moi, que j'étais au contact de managers toxiques et de collaborateurs ou tristes toxiques. Donc, ces cinq profils, surtout deux d'entre eux me parlent pas mal. Ouais.
Attends, parce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai qu'on oublie ça aussi, il y a certes le collègue toxique. Ou la collègue toxique, le manager toxique, mais il peut y avoir effectivement le collaborateur ou la collaboratrice toxique. Mais ça, pour moi, qui est honnêtement, alors on va peut-être parler de ce premier cas en premier.
Et le client toxique.
Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison.
Mais oui.
T'as raison, Léna. Ouais. Mais je trouve que, je sais pas, alors, quand il y a un lien comme ça, que ce soit un client ou que ce soit un collaborateur, une collaboratrice, je trouve que c'est assez simple à gérer. Moi, il m'est arrivé dans ma longue carrière de manager d'avoir comment dire, des collaborateurs ou collaboratrices toxiques. Je les faisais venir dans mon bureau et je mettais les pieds dans le plat en disant « Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer ce comportement ?» Et de dire, d'être extrêmement clair sur le fait que je ne tolérerai pas ce genre de comportement. Je trouve que c'est plutôt simple à gérer, non ? Laurane, toi qui a parlé de ce profil-là, tu ne trouves pas que c'est le cas de toxicité le plus simple à gérer ?
Pas du tout. Moi, j'aurais adoré pouvoir faire ce que tu as fait. J'aurais adoré avoir eu ce courage.
Mais pourquoi tu ne l'as pas fait ?
Mais parce que je n'y arrivais pas, parce que j'étais complètement bloquée, parce que j'étais tétanisée, parce qu'en fait aussi, je culpabilisais et je me disais que ça pouvait être de ma faute.
Alors ça, c'est vrai, il y a le côté... C'est toujours complexe les relations parce qu'on finit par culpabiliser, y compris dans une relation toxique. Alors je préviens, je l'ai dit en introduction, mais je fais un petit refresh. On ne va pas parler des pervers narcissiques. Parce que la perversité narcissique, alors je vais vous donner un chiffre. Alors il y a toujours le chiffre qui fait flipper dans les happy work du vendredi. En fait, en entreprise, on estime qu'il y a 2% de psychopathes, exactement la même proportion que dans la société. Donc quand on dit psychopathe ou sociopathe, ce sont des gens qui ont des problèmes relationnels, dont les pervers narcissiques. Donc c'est une minorité, mais la toxicité, c'est pas ça. C'est vraiment le comportement qui ne relève pas d'une pathologie. Mais Léna, oui, tu claques ton micro, je t'en prie. Ah oui, alors je précise, quand vous êtes sur le stage, vous claquez le micro et je donne la parole tout de suite. Et d'ailleurs, si vous voulez monter pour participer au débat ou poser des questions, vous êtes bien entendu toutes les bienvenues et tous les bienvenus. Ma chère Léna.
Excuse-moi Gaël, je voulais juste rajouter une petite parenthèse, qu'on peut être le toxique de quelqu'un d'autre aussi, à faire attention à ça.
Oui, complètement, et on ne s'aperçoit pas forcément qu'on est toxique. Toi, tu penses à quelque chose, Léna ?
Pas à mon cas personnel, mais parfois, j'entends des clients me parler de situations et on vient au point où le client peut réaliser qu'il est lui-même toxique dans certaines situations.
Moi, je me suis aperçu que, sans le savoir, Emmanuel, j'ai vu que tu as claqué ton micro, je te passe la parole juste après. Laurane, avec qui j'ai travaillé pendant pas mal de temps, pourra témoigner. Je me suis aperçu dans d'autres boulots que j'étais toxique sans m'en apercevoir, parce que je suis quelqu'un, quand j'étais manager, j'étais plutôt très péchu et à raconter des bêtises à peu près toutes les deux secondes et demie en étant convaincu qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et il y avait des gens qui le vivaient très mal. Et une personne notamment, dans un de mes métiers, qui est venue me voir, alors c'est parce que ensuite la libération de la parole, je crois que c'est quand même une grande source de bien-être, et cette personne est venue me voir en me disant bah, « Oui, ça me met très très mal à l'aise de cette ambiance que tu mets. » Alors c'est un peu bizarre, mais on est toujours au même titre. Alors ça, c'est un grand débat qu'on m'a lancé après l'intervention d'Emmanuel. Est-ce qu'au même titre qu'on est toujours le crétin de quelqu'un, est-ce qu'on est aussi le toxique de quelqu'un forcément ? Gros débat. Emmanuel, tu voulais parler ?
Oui, donc... Je voulais vous dire en fait que donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur la room, je parlais des cinq profils harceleur, manipulateur, immature, paresseux et psychorigide. Et vous savez que en fait ces cinq personnes, elles ont un point commun en fait, tous ces profils toxiques, c'est d'user d'une communication dominante qu'on appelle basse qualité relationnelle. Et en fait, ils utilisent. Alors, ils vont vous dire par exemple. Votre travail, c'est de la merde, c'est la dévalorisation. Nous avons perdu ce contrat à cause de vous. Il vous culpabilise, la culpabilisation. Surveillez-vous, sinon je vous surveille, il vous menace. Soyez conciliants, sinon pas de congé, ils font du chantage. Et parfois, ils ont aussi une indifférence non verbale. Et en fait, tous ces profils, ils utilisent ce qu'on appelle la basse qualité relationnelle, c'est-à-dire qu'ils vous mettent plus bas que terre. Et je ne sais pas si toi, Gaël, tu l'as remarqué. Ben justement, tu disais, j'ai rencontré ces cinq profils. Ça serait intéressant de savoir si dans tes souvenirs, ils utilisaient ce style de message.
Mais complètement. Et souvent, je remarque que les pires toxiques, c'est des relations de pouvoir et de pouvoir pervers, en fait. Ce que tu viens de décrire, ben, c'est une relation perverse de pouvoir et de bien rappeler par la menace ou par une peur insidieuse qui a le pouvoir. Et c'est vraiment très compliqué à gérer au quotidien. Je ne sais pas si Emmanuel, tu sais, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mon boss est nul, mais je le soigne », parce que je crois que justement, il faut, dans un premier temps, prendre conscience de cette relation. Et ce n'est pas si évident que ça, parce que comme l'a très bien dit Laurane, on peut se faire taper sur les doigts par un manager qui va dire « c'est ta faute si on n'a pas ce contrat, c'est ta faute, je te surveille », enfin tout ce que tu viens de décrire, et pour autant, ne pas avoir conscience que ce comportement n'est pas normal. Et c'est toute la problématique, parce que toute la problème, ça ne veut rien dire, toute la problématique, c'est justement un moment de prendre conscience de la relation toxique qui est mise en place. Et à partir du moment où on commence à en prendre conscience, c'est là où on va pouvoir agir, ce qui va être la deuxième partie de cet épisode de Happy Work sur Clubhouse. Mais alors, moi, j'aimerais bien, chère Laurane, revenir sur ce que tu dis en tant que manager, que tu n'es pas osé intervenir auprès d'un collaborateur ou d'une collaboratrice toxique. Tu as dû être très, très mal dans tes baskets à ce moment-là.
J'étais pas manager, moi, à cette époque encore.
Ah, j'avais cru comprendre. Alors, c'était pardon.
En fait, j'avais eu un manager toxique et j'avais eu une collaboratrice toxique et pas dans la même boîte en plus. Allez.
D'accord, mais collaboratrice toxique, mais pas envers toi en tant que manager.
Pas du tout. On était au
d'accord, donc c'était entre collègues. D'accord. Exactement. Alors c'était quoi comme genre de toxicité ?
Eh ben, c'était une agressivité verbale qu'elle pouvait avoir, notamment avec quasiment tout le monde. C'était pas principalement ciblé contre moi, si tu veux, mais vu qu'on se partageait toutes les deux le bureau. Elle faisait un peu la pluie et le beau temps au niveau de l'ambiance dans le bureau. Et elle ne s'en rendait absolument pas compte. Et quand elle me racontait parfois des échanges qu'elle pouvait avoir avec certaines personnes, elle me disait « mais tu te rends compte ? Il a osé me dire que j'étais agressive, etc. » Et jusqu'au jour où je lui ai dit « mais écoute, oui, absolument, tu l'es, complètement. »
Et donc, ça, une fois que tu as dit ça, ça a dû aller nettement mieux quand même, non ?
Ça l'a trois fois plus énervée.
Tu as chatouillé le nez du dragon, comme on dit.
Exactement, exactement.
Mais la coach que tu es devenue, ou alors tiens, on va jouer à un jeu, parce que Laurane et Léna, vous êtes toutes les deux coachs. Léna, imagine, Laurane n'est pas coach, elle vient te voir pour te raconter cette histoire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais ?
A posteriori ?
Non, non, c'est imagine, là, ça lui arrive là maintenant, en tant que collaboratrice, elle a une collègue qui est super agressive en permanence. Qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors déjà, je lui demanderais de m'exprimer ce qu'elle ressent dans les moments, dans les situations précises. Et puis ensuite, peut-être, je lui conseillerais de métacommuniquer, d'aller voir sa collègue et de lui dire ce qu'elle ressent en sa présence.
Alors, les amis coachs, parfois, vous parlez de façon un peu chelou. Métacommuniquer. Alors, Léna, il va falloir que tu m'expliques ce que c'est la métacommunication. Il y a beaucoup de personnes dans l'audience, j'imagine. Donc, c'est quoi la
Ah,
métacommunication? Ouais.
excusez-moi. Grosso modo, pour vulgariser, de communiquer sur ce qu'elle ressent, c'est-à-dire au lieu d'aller la voir et de lui dire tu ceci et tu cela, de lui dire voilà, je me sens de cette façon, je ressens ça, en fait, de communiquer sur sa communication. Donc, je vais trouver un exemple précis sur sa situation. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout.
Moi, ça me parle tout à fait. Tu sais, ça me rappelle une anecdote. Alors, je ne peux pas raconter dans quel média c'était, mais j'arrive dans une boîte, je suis recruté par le directeur général et le président, et je débarque comme numéro 2 d'un département. Je n'avais jamais rencontré le patron de ce département. Et donc, j'arrive, première réunion, et je crois que c'est la première fois que j'ai travaillé avec Dark Vador, mais littéralement. C'est-à-dire que le type hurle sur tout le monde, y compris moi. À un moment pendant la réunion, jette un objet, je crois que c'était une agrafeuse, à la tête de son assistante. Donc le mec, sympa. Et moi, je venais d'arriver, ça faisait genre 2-3 jours que j'étais là. Et donc, à la fin de la réunion, je suis allé le voir en lui disant, écoute, c'est bien simple, c'est la prochaine fois que tu t'adresses comme ça à moi, parce que ça ne me convient pas, sache que j'ai le pouvoir de démissionner et je partirai. Je ne tolère pas qu'on parle comme ça, tu as le droit d'être énervé. Par contre, il y a une vraie différence entre la forme et le fond. Et je pense que dans le cas d'une relation, quel que soit le niveau hiérarchique, il faut toujours revenir sur la différence entre le fond et la forme. Et être toxique, il y a des gens qui sont des malades, et lui en l'occurrence était un malade. Mais il y a bien souvent des gens qui sont toxiques sans forcément s'en apercevoir. On pourrait parler, et on va parler d'ailleurs, par exemple, des managers ou des collègues qui envoient des emails le samedi à 23h. C'est une forme de toxicité aussi. Et on va accueillir le camarade Hervé Charles qui vient d'arriver. Ça fait plaisir de te revoir, Hervé Charles. Comment vas-tu?
Bonsoir Gaël, bah, écoute, très bien. En plus, il fait beau, donc c'est parfait. Écoute, les batteries sont rechargées, voilà. Et vous? Et toi, comment tu vas?
Nickel. On fait un petit refresh d'ailleurs pour toi et pour les gens qui sont arrivés sur la room. On parle donc des gens toxiques en entreprise, tout en sachant que la première partie, c'est vraiment identifier c'est quoi être toxique. Et peut-être que chacun, même sans s'en apercevoir, on peut être toxique et c'est important d'identifier. Et la deuxième partie sera consacrée au fait, à comment est-ce qu'on gère justement ces gens toxiques autour de nous. Et Emmanuel nous avait donné les cinq catégories les cinq typologies toxiques. Emmanuel, tu pourrais peut-être les rappeler pour les personnes qui viennent d'arriver.
Oui, salut Hervé Charles, j'espère que tu vas bien. Alors, comme je disais en début de room, j'ai bossé cette fois-ci. Et donc, je parlais d'une galerie de cinq profils toxiques, le harceleur, le manipulateur, l'immature, le paresseux et le psychorigide. En fait, j'avais fait un résumé d'un bouquin de Christophe Médici qui parlait de la gestion des personnes toxiques. Peut-être que ça te parle.
Ouais, toi, Hervé Charles, alors, ce sujet, qu'est-ce qui t'évoque?
Il m'évoque déjà la toxicité. La toxicité, effectivement, Emmanuel, peut-être qu'il y a cinq catégories, mais je crois qu'il n'y a pas. J'allais dire, chaque personne peut être toxique à sa manière. Et les rentrer dans les cas, ça me paraît un peu compliqué. Ça dépend de la situation, ça dépend des émotions, ça dépend des moments, ça dépend des pressions aussi qu'on peut recevoir dans l'entreprise. Et qu'à un moment dans notre vie, on a tous peut-être été toxiques sans le vouloir ou de manière volontaire, ça c'est un peu plus grave. Mais voilà ce que ça m'évoque. Ça m'évoque le fait, surtout, ça s'apprend à ne plus être toxique pour ceux qui le peuvent l'être. Et également, quand on est collaborateur et qu'on subit cette toxicité, ça s'apprend aussi pour s'engager et se désengager de cette toxicité en tout cas.
Mais je crois qu'effectivement, la première chose à faire, c'est de se poser la question, chacun individuellement, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui ne me fait pas du bien dans le cadre de mes relations avec mes managers, avec mes collaborateurs ou collaboratrices, si je suis moi-même manager, ou avec mes collègues, pour essayer d'avoir une grille de lecture et aussi de faire un peu d'introspection et se dire, est-ce que mon comportement est acceptable par les autres. Et le meilleur moyen, ça reste de poser la question. Je donnais cet exemple tout bête d'envoyer des emails le week-end. Il y a plein de managers qui ne s'aperçoivent pas ou de gens qui travaillent qui ne s'aperçoivent pas que potentiellement, pour des gens, c'est extrêmement toxique. Et le meilleur moyen, c'est encore de libérer la parole. Oui, Léna, tu veux prendre la parole, je t'en prie.
Ah, vraiment, je m'excuse. Je voulais faire un point rapidement parce que tout à l'heure, justement, rapidement, j'avais défini la toxicité comme l'agent stresseur, pour vraiment résumer. Et je pense que c'est important aussi de se poser la question sur soi-même, son degré de stressabilité. Je pense que c'est les deux, en fait, qui créent la toxicité. En fait, pouvoir effectivement identifier, voilà, quel est l'agent externe qui vient me créer un stress qui est insupportable, mais aussi pouvoir se questionner sur soi-même, son degré de stressabilité, et voir comment on peut travailler dessus. Et je rebondis sur ce qu'Hervé Charles a dit par rapport au fait, parce que moi aussi, même si je pense que c'est intéressant d'avoir des catégories et 5 profils, je me dis effectivement c'est compliqué de mettre des cases, et je sais pas si ou alors je sais pas si j'ai bien écouté, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect parfois antipathie, c'est-à-dire que chacun dégage une énergie, un certain nombre, par exemple, de tics de langage ou d'attitude ou de posture, qui, sans le savoir, peuvent créer du stress pour les autres, c'est-à-dire de façon complètement inconsciente, la façon dont on va communiquer, dont on va agir, peut créer du stress chez quelqu'un. Et il faut aussi se rendre compte de ça, autant chez l'autre que chez soi-même, qu'il y a un degré d'antipathie qui peut être créé, et pouvoir l'identifier pour, je parlais tout à l'heure de métacommuniquer, une fois qu'on a identifié ça, par exemple s'il s'agit de communication, pouvoir dire à la personne, par exemple dans le cas de Laurane, dire voilà, j'aurais aimé ou je souhaiterais qu'on communique de cette façon, ce serait plus agréable pour moi, je comprendrais mieux le message.
Mais alors, je vais poser une question à toutes les personnes sur les stages, mais n'hésitez pas dans l'audience à monter si vous voulez partager des expériences. Est-ce que le premier danger, au final, c'est pas nous ? Alors, je m'explique. On sait que le burn-out, ça s'attrape pas comme la grippe. Hein, c'est parce qu'on ne se fixe pas de limites forcément et qu'on ne déconnecte jamais, on travaille de plus en plus, on est très très impliqué et finalement, on se fait du mal à nous-mêmes. Est-ce que le premier danger, c'est de justement pas prendre soin de son bien-être, pas savoir déconnecter, pas savoir dire non à certains comportements. Un petit peu comme tu disais, Laurent, tout à l'heure, de ne pas oser dire à ta collègue qu'elle était vraiment trop, trop agressive. Est-ce que finalement, le premier danger dans l'entreprise et dans notre bien-être, ce n'est pas nous-mêmes, Emmanuel ou Hervé Charles ou Laurent ou Léna, d'ailleurs, je vous en prie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vas-y, Hervé Charles.
Je te rejoins, effectivement, mais là, on rejoint une notion qui s'appelle la confiance en soi, parce que souvent, la toxicité, ça va être l'emprise d'une personne ou d'un groupe de personnes vers un autre ou un autre groupe. Et souvent, effectivement, l'une des armes pour la contrer, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une connaissance de soi et de ses compétences, de ses qualités, de ses axes d'amélioration. Donc oui, effectivement, le meilleur, j'allais dire... Firewall, c'est le premier mot qui me vient, désolé, hein, c'est pas parce que...
Non, mais c'est super clair. Non, mais t'as raison, c'est un firewall, ouais, exactement.
C'est effectivement la confiance en soi qui va permettre de bloquer. À partir du moment où j'ai pas envie d'être touché, j'ai un firewall qui est la confiance en moi, et dans ce cas-là, effectivement, les atteintes, les approches, les critiques, les reproches, volontaires ou involontaires, dans ce cas-là, seront un peu plus parés.
Ouais, c'est très juste. Laurent, tu voulais réagir également?
Ça rejoint beaucoup, en fait, pour pas dire intégralement ce que Hervé Charles vient de dire, en fait. C'est exactement ça. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, dans le coaching, quand on coach quelqu'un, quand on accompagne quelqu'un, on va toujours aller lui faire regarder ce qui se passe en lui et non pas ce qui se passe chez les autres. Parce que de toute manière, on peut pas agir pour les autres. Ça, c'est pas possible. En revanche, on peut agir pour le client qu'on a en face de nous et essayer de comprendre pourquoi il interprète certaines... ou pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, ou pourquoi est-ce qu'il se sent dévalorisé. Enfin, je ne vais pas faire l'étalage de toutes les émotions possibles, mais oui. je te vois complètement. Et attends, juste un petit point aussi, je trouvais que ce que Léna, c'est ma filleule que j'accompagnais hier à l'école, de ce que Léna disait tout à l'heure était très juste, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on va encourager, en fait, quelqu'un à aller voir la fameuse personne toxique, en parlant en « je » et pas en « tu », ne pas utiliser cette mitraillette du « tu » qui n'est pas facile, bien sûr, hein, mais ça peut permettre, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas peut-être sur les fois prochaines, un dialogue et un discours, parce que peut-être que la personne qui est visée comme toxique, elle va aussi pouvoir se libérer en lui disant « mais tu sais, moi aussi, je ressens telle émotion, je suis gênée lorsque tu fais telle et telle chose ou lorsque tu dis telle chose, etc. » Donc ça peut aussi briser, permettre en tout cas de soulager quelque chose, quoi, qui était complètement tu.
Mais est-ce que dans notre culture, notre bonne vieille culture judéo-chrétienne, on n'est pas un peu victime du syndrome du bon élève ou de la bonne élève, de se dire on doit être dur. Et ça, c'est vraiment un truc de ma génération. Et Emmanuel et Hervé Charles, on est à peu près... Enfin non, je suis le plus vieux de la bande, mais on est un peu... On fait pas partie des plus jeunes de Clubhouse. Le syndrome du bon élève, c'est on se dit, je dois tout accepter. Et je dois dépasser toutes mes angoisses, je dois dépasser absolument tout, accepter, parce que c'est à ça qu'on va reconnaître ma valeur en tant que professionnel. Si je suis capable, par exemple... de supporter mon boss qui me parle mal, ou, alors petite information qui est assez étonnante, une des premières sources de démotivation en entreprise, ce sont les petites incivilités, notamment par le management, comme ne pas dire bonjour. Ça peut vous sembler pas très important, un manager qui dit pas bonjour, et pourtant, c'est de la toxicité. Oh là, c'est dur à dire, toxicité, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un comportement toxique. Alors Emmanuel, j'ai vu que tu avais claqué ton micro tout à l'heure, tu voulais rebondir, réagir?
Oui, je voulais rebondir. Effectivement, on n'est pas de la même génération. J'ai 20 ans de moins que toi, mais...
Oh, le méchant.
Mais non, mais je suis profondément d'accord avec toi. Je fais partie j'ai fait partie de cette génération qui devait accepter, même si ton manager te parlait salement. Et effectivement, sur mes derniers postes, j'ai changé un peu de fusil d'épaule, et dès que mon manager me parlait mal, en fait, j'allais le voir. Et dans le cas de relations toxiques, j'entends. Et effectivement, à partir du moment où je posais les choses en étant tout à fait relax, sans en avoir peur, je reprends la confiance en soi, très important, ça se calmait tout de suite. Parce qu'en fait, la personne toxique se rendait compte que finalement, je suis indestructible, tu vois. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Non, mais c'est extrêmement clair ce que tu expliques.
J'ai une telle confiance, c'est tout un chemin et tout un travail sur soi qu'il faut faire. Hein, mais j'avais une telle confiance en moi, dans ce que je lui disais, parce que, en fait, j'utilisais des termes posés. Je parlais comme je le fais maintenant, et en fait, je remettais en cause les choses qu'il pouvait me dire calmement. En fait, ça le déstabilisait, mais tu peux même pas imaginer. Et encore récemment, j'ai parlé comme ça à mon manager, ça l'a déstabilisé et ça l'a rendu lui furieux. Et j'étais là, mais pourquoi t'énerves-tu ? Je garde ton calme. En fait, une incapacité finalement à garder son calme face à quelqu'un qui a confiance en soi.
Mais en fait, je crois que vraiment, et avant de te passer la parole, Léna, ce que tu as fait, Emmanuel, c'est un truc que j'avais théorisé dans la parabole du chihuahua et du pitbull. J'adore comparer les êtres humains aux animaux. Et regardez, dans la nature, un pitbull, vous le verrez rarement aboyer. Alors que les chihuahuas, alors, par avance, désolé, parce qu'une fois, je me suis pris une volée de bois vert par quelqu'un qui avait un chihuahua en disant « Non, non, mais les chihuahuas sont des chiens absolument extraordinaires. Prenons un chihuahua énervé. » Et faites cette expérience, je vous assure, ça fonctionne. Et c'est exactement ce que tu as décrit, Emmanuel. Vous approchez d'un chihuahua attaché. Parce que j'ai essayé avec un chihuahua pas attaché. En plus, ça peut mordre, c'est sale bête. Donc, vous approchez d'un chihuahua attaché. Il va vous aboyer dessus. Là, vous avez plusieurs possibilités. Tourner les talons, partir. Les comportementalistes animaux, on a dit que le chihuahua, s'il aboie, c'est pas parce qu'il est petit et qu'il a peur, c'est parce que dans sa tête, il se prend pour un pitbull. Il se croit balèze. Et regardez, avec la nature humaine, les gens qui aboient et qui gueulent, généralement, se prend pour des gens très forts, mais par contre, bizarrement, ils vont s'attaquer à plus faibles qu'eux. Le chihuahua, c'est pas ça. Donc, s'il aboie, vous partez, dans sa tête, le chihuahua va se dire « Waouh, je suis super balèze, j'ai fait peur aux grands. » Alors que si vous restez devant, hyper calmement, sans rien dire, au bout de 30 secondes, le chihuahua va s'arrêter d'aboyer. Et c'est ce que tu décrivais très bien, Emmanuel. C'est déstabilisant parce que tu envoies un message qui est posé, qui est calme. Et je crois que face aux gens toxiques, il ne faut surtout pas rentrer dans la toxicité et renvoyer la même chose. Et je donne toujours cet exemple des gens hyper connectés. Si votre boss vous envoie des emails à 22h tous les jours et exige une réponse à 22h tous les jours, vous pouvez dire extrêmement calmement le lendemain, et c'est ce que j'ai fait avec une de mes patronnes à l'époque, de dire « mais moi je te répondrai demain matin à 8h30 du matin, mais je suis désolé, j'ai une vie privée. » Et ça ne sert à rien d'avoir des échanges pendant la nuit, puisqu'il n'y a pas de business pendant la nuit. Et en fait, on a parlé très calmement, et ce côté toxique, qui pour elle ne l'était pas, parce que dans sa perception, c'était ce qu'on appelle une patronne no life, donc sa seule vie, c'était son boulot, donc elle disait « mais c'est là où j'ai le temps de faire des emails. » Et j'ai eu après la fonction envoi différé. Donc elle pouvait se pourrir sa vie, mais elle ne la pourrissait plus, elle faisait des envois différés. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, Emmanuel, je crois qu'effectivement, le fait de toujours rester calme, si le point toxique, c'est quelqu'un d'être énervé, c'est essentiel, absolument essentiel. Léna, tu voulais intervenir. Alors, juste petit refresh pour toutes les personnes dans l'audience, si vous voulez venir pour nous partager des tips ou des expériences ou nous poser des questions, vous êtes bien entendu les bienvenus. Ma chère Léna.
Oui, pour répondre à ce que tu disais, moi, je ne suis pas sûre que ce soit générationnel, sachant que je me reconnais aussi là-dedans. Je pense qu'un peu comme le burn-out, on a tous le sentiment de se dire « Ok, j'ai du stress », alors de vouloir le rejeter et de se dire « Je ne vais pas montrer de signe de faiblesse, je peux encaisser ». Et pour rebondir sur ce que Laurane disait, effectivement, on peut en ressentir de la culpabilité parce qu'on a le sentiment que notre compétence est remise en cause. Et je voulais déculpabiliser un petit peu tous ceux qui peuvent être dans cette situation, parce qu'on parle beaucoup de confiance en soi, ce qui est vrai. Mais parfois, la toxicité est tellement insupportable que quand même, la seule issue, c'est de partir. Et il ne faut pas le prendre comme un échec.
Alors, merci de rappeler ça, Léna, parce que c'est il y a beaucoup de jeunes managers à qui je parle. Quand je dis jeune manager, alors c'est relativement à mon âge, hein, donc on va dire moins de 40 ans, donc c'est quand même assez large hein, comme panel. Et ils me disent « Oui, mais moi, je peux rien faire. Tu comprends, Gaël, si moi, je suis bienveillant, moi, au-dessus de moi, ils sont pas bienveillants, je peux pas le faire. » Je fais « Mais qu'est-ce qui t'en empêche ?» Je fais « Bah, si je le fais, mes boss vont pas être contents. » Je fais « Et alors ?» Et là, ils me font « Oui, mais... je ne peux pas rentrer en opposition. » Je me dis, mais pourquoi ? Et là, systématiquement, arrive à un moment ou à un autre cette phrase terrible, « Non mais je risque de me faire virer. » Et là, je réponds à ces jeunes managers. Et là, je parle vraiment d'un niveau manager, bac plus 5, enfin des gens pour qui le niveau de chômage, selon l'INSEE, est à 3%. Donc, on est sur le plein emploi sur ces profils-là. Et je leur dis, « Et alors ?» Bah, faites-vous virer, ayez le courage à un moment, il faut se lever et avoir le courage de lutter contre les gens toxiques. Et se faire virer parce qu'on a défendu des convictions, moi ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière, très honnêtement, ouais, c'est pas un moment agréable à passer, mais on se regarde dans la glace avec, plutôt on est assez fier de soi après coup. Alors tu nous as rejoint sur le stage, ça fait très plaisir de te voir parmi nous. Tu voulais ajouter au débat, poser une question ou amener une nouvelle réflexion ?
Moi, je voulais amener une nouvelle réflexion, mais sur les. Quand tu manages des gens toxiques, j'ai eu cet immense honneur à Londres. Cette personne est toujours à la même position. Elle a usé trois managers avant moi et quatre depuis. Donc, elle continue, on va dire, ses œuvres fatales. Et ce qui est hyper compliqué, moi en tout cas, j'avais bossé en banque, donc j'avais des évals à faire. Et donc, la première année, je suis arrivée, comme d'habitude, mon éval préparé quand même. Je me suis fait point par point, il a tout travaillé. Et donc après, si je peux donner un seul conseil, quand on a des gens toxiques dans ses équipes, il faut être surfactuel. Ça veut dire qu'il faut... Moi, dans la dernière éval que je lui ai fait, je lui disais, voilà, quand on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu grognes et tu dis que t'es pas content, avec un exemple précis. Et la personne a signé son éval en disant... t'es pas sympa, mais factuellement tout est vrai, donc je ne peux parce que tout était backé par un exemple et plusieurs exemples, et donc je trouve que c'est hyper important en fait quand on est dans la toxicité, il faut pas du tout être sur l'émotionnel, il faut être purement sur le factuel parce que ça c'est imbattable, alors que l'émotionnel, toi tu l'as ressenti comme ça, lui il l'a ressenti autrement, et donc si c'est un seul conseil que je peux donner, c'est de rester factuel à 100%. Et que chaque chose que tu lui dis, tu dois avoir un fait, voire plusieurs, et rester factuel, même si ça fait une bêtise dans l'opération, dire les deux côtés de la.
C'est hyper important ce que tu rappelles et merci beaucoup parce qu'effectivement, dans la gestion des gens toxiques, c'est exactement comme ce que je disais avec les chihuahuas, deux chihuahuas qui sont l'un en face de l'autre, il n'en sort pas grand-chose de positif. Alors que si on est effectivement dans le factuel, qu'on rappelle des éléments, au lieu de dire ça ne me plaît pas ce que tu as fait, mais de dire voilà, c'est ce comportement amène tel résultat, et que très factuellement, on a perdu tel contrat, ou alors l'ambiance dans l'équipe ne permet pas aux gens d'être créatifs. Enfin bref, de donner des exemples concrets et de montrer en quoi un changement de comportement, parce que je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est de montrer aux gens toxiques en quoi un changement de comportement peut apporter quelque chose à l'entreprise. Parce que bien souvent, ils sont pas conscients de ça, du fait que leur comportement peut être nuisible. Mais toi, Camille, je voudrais juste rester sur ton exemple. La personne, t'as réussi à la faire évoluer ou finalement pas vraiment
Non,
parce que indécrottable?
j'ai sauvé ma peau. Et Gaël, je suis désolée de détruire ce rêve, mais les gens qui sont toxiques, en fait, généralement, ils le savent depuis très longtemps. Et en fait, ils te font croire que tu as. Mais en fait, c'est pas changeable. En fait, ils savent qu'ils ont un pouvoir, soit parce qu'ils sont hyper politiques. Moi, il était dans mon cas, il était protégé par le trading. Et en fait, j'ai pas essayé. J'ai juste essayé de survivre, tu vois. Et à la fin, d'ailleurs, j'ai sauvé ma peau et j'ai quitté mon poste. J'ai changé de poste à cause de lui. Parce que j'ai vu ce qu'il avait fait aux trois managers avant moi. Et je voulais pas arriver à ce point-là. Et c'est là, d'ailleurs, où c'est intéressant. C'est que, tu vois, c'était mon N-2. Et quand j'ai été voir les RH, ils m'ont dit, c'est ta parole contre la sienne. Donc, your call. Bah, dans ces cas-là, tu dis, bon, bah, je vais. En fait, j'ai décidé de sauver ma santé mentale quand une fois, je lui avais dit que je lui demandais de faire les expeeds d'une certaine façon et de ne pas partir 10 minutes avant, mais de me dire quand il partait, voilà, pour la gestion d'équipe, c'est plus facile. Et je lui avais dit, je suis ton manager. Et après, il avait mis un robot sur son desk avec écrit I am your manager, qui était la phrase exacte que j'avais dit. Tu vois? Et
Ouais.
donc.
Mais là, Camille, quand même, on est dans le cadre d'un pervers narcissique. Parce que quand je dis il y a beaucoup de gens qui sont toxiques sans s'en apercevoir, j'ai donné un exemple tout bête. Et avant de donner la parole à Idir qui vient de monter sur le stage, et à Laurent, je crois, qui a claqué son micro également, il y a un comportement profondément toxique et auquel les gens ne prêtent pas attention, c'est le retard. D'arriver systématiquement en retard en réunion. Parce qu'en France, on a ce côté, si j'arrive en retard, ça montre à quel point je suis hyper occupé, hyper busy. Moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas arriver à l'heure parce que j'ai tellement de choses à faire. Et c'est profondément toxique. Il y a des gens, il y a des équipes qui souffrent, mais vraiment. Parce que toutes les semaines, leur manager organise la réunion du lundi matin à 9h30 et qui commence systématiquement à 9h45. Et je vous garantis, et je t'assure, hein, Camille, là, on ne parle pas de grande toxicité. Parce que là, j'ai l'impression que ton cas, c'était un psychopathe au sens pathologique du terme. Enfin, corrige-moi
Bah,
si je
moi,
me trompe.
j'avais mon ancien boss, il me mettait des meetings à 7h30 tous les matins. Je crois qu'il est venu à un meeting sur 10. Donc, je vois très bien. Et je lui ai dit plusieurs fois que ce n'était pas possible de réagir comme ça. Alors, il y a des gens, quand tu le dis une fois et qu'ils n'avaient pas entendu, ça règle. Mais il y a des gens, en fait, ils le savent. Et à chaque fois, ils font semblant d'entendre la critique pour une première fois. Parce que je trouve, mais après, ça, c'est très français, qu'il y a beaucoup de managers qui, sous principe, qui t'offrent des coups le soir, ils veulent te faire avaler n'importe quelle couleuvre. Personnellement, je préfère mieux qu'ils arrivent à l'heure à tous les meetings plutôt qu'ils peuvent des coups le soir. Hein. Parce que les coups, je peux les payer tout seul. Voilà. Mais je pense que les gens donc, que tu décris, ça doit arriver. Mais généralement, tu leur dis une fois, deux fois, c'est end of the story, toi. Je pense
Complètement.
quand t'as. C'est ça que je veux dire.
Ouais, mais tu as complètement raison. Mais comme le disait Laurent tout à l'heure, les gens n'osent pas forcément le dire. Et tout le problème est là. C'est moi, c'est un peu le message que j'essaye de faire passer à toutes les personnes, qu'on soit manager ou manager, c'est oser parler, oser dire à votre collègue qu'il a un comportement qui ne vous plaît pas, oser dire à votre manager qu'il a un comportement qui ne vous plaît pas. Moi, en tant que manager, le pire que j'ai eu, mais le pire, je ne sais pas si ça vous est arrivé, et y dire, promis, je te donne la parole là dans 3 minutes. Le pire que j'ai eu à gérer, et c'est du toxique, ça va vous faire marrer, c'est quelqu'un qui puait, qui sentait mais vraiment mauvais dans l'équipe. Et qui insupportait tout. Et puis, on était dans un open space, donc vraiment le truc compliqué. Et c'est une autre forme de toxicité. parce que littéralement, c'était très, très malodorant. Et ben, le seul moyen, ça a été d'avoir un rendez-vous avec cette personne et de trouver les bons mots, non pas pour le culpabiliser, parce que lui-même ne se sentait pas toxique au sens littéral du terme. Ben, pour autant, il fallait bien que quelqu'un se dévoue. J'étais le manager, je l'ai fait. Et donc, il faut parler, en fait. Avoir ce courage de parler et de dépasser cette peur de blesser. Parce qu'il y a aussi, là, honnêtement, dans l'exemple dont je vous parle, c'est pas simple quand même de devoir faire comprendre à quelqu'un que le déodorant a été inventé. C'est vraiment, et là j'en parle avec humour, mais je peux vous dire que la nuit d'avant avoir cette réunion, c'était pas, j'ai pas dormi tranquille. Mon cher Idir, bienvenue sur le stage. On t'écoute, la parole est à toi.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ça me fait réagir, en fait j'ai vu effectivement le sujet de la roue, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir un peu ce qui se disait. Et c'est marrant parce que j'ai connu une situation récente qui se prêtait pile poil à ce que vous disiez. C'était pas tant pour moi que pour ma petite sœur. En fait, moi j'ai déjà connu des situations avec des gens toxiques dans des entreprises, petites et grandes. Donc j'ai vraiment connu toutes les tailles d'entreprises et les gens toxiques associés. Mais ça m'a jamais trop traumatisé longtemps. Par contre, ma petite sœur qui, elle, est ingénieure en production et qui a bossé dans une grosse boîte française entourée d'hommes, avec vraiment 98% d'hommes et très peu de femmes, a connu une situation problématique. Et ça me fait penser au fait qu'on peut très bien, effectivement, nous, trouver des astuces individuellement, essayer de s'améliorer ou de communiquer plus ou de trouver des techniques pour gérer tout un tas de personnes toxiques, parce qu'il y en a de plein de sortes. Mais l'entreprise a un poids énorme, en fait, parce que on est un collectif, et en tant que collectif, comme dans une équipe de foot, le coach, qui est en quelque sorte le manager ou alors la personne qui représente l'entreprise, a un rôle fondamental. C'est envers cette personne qu'on peut se plaindre du comportement de quelqu'un d'autre. Et ce qui est dramatique, c'est dans le cas, par exemple, de ma petite sœur, qui avait un responsable beaucoup plus âgé qu'elle, avec un comportement complètement inapproprié avec les femmes. Quelqu'un qui vous fait des blagues de cul à toutes les réunions, des allusions vraiment à la limite de... Je ne sais même pas comment on peut qualifier ça, mais vous savez, des blagues vraiment lourdes et même des allusions limite sexuelles, et uniquement à vous, et uniquement aux femmes de l'équipe ou de l'entreprise. Et ma sœur, qui, pour l'exemple, s'est plaint à sa hiérarchie, s'est vue répondre à ses plaintes et à son désespoir, parce qu'elle l'a très mal vécu pendant des mois. C'est quelqu'un qui a 55 ans, il est proche de la retraite, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je ne veux pas être trop long, je disais juste que moi, le focus, je le mets aussi sur la hiérarchie et l'entreprise qui, souvent en France, ce n'est pas la première fois que j'entends ça, qui ne veut pas régler le problème.
Mais tu as tellement raison. En fait, ça pose la question de l'entreprise toxique.
Bien sûr.
Et cette question-là, elle est essentielle. Est-ce que Laura, Nervé, Charles, Emmanuel ou Léna, la notion d'entreprise toxique, en tant que telle, ça vous parle ?
Bien sûr, c'est souvent une culture qui est installée depuis un certain temps et qui est très difficile à déloger.
Laurent, toi, tu voulais réagir à ce que disait Idir, je crois, et après avec Charles.
Ouais, je voulais lancer quelque chose, en fait. J'étais en train d'échanger avec quelqu'un dans la room, et en fait, ce qui s'est dit, c'est que on peut définir quelqu'un de toxique selon notre propre lecture à nous, en fait, selon notre propre formatage. Et peut-être que notre voisine d'à côté, elle ne va pas définir cette même personne comme étant toxique.
Laura,
du coup, la question qui était posée, attends, pardon, c'était est-ce que ça existe ? Alors, soyons peut-être un petit peu. Enfin, parfois, est-ce que ça existe vraiment une personne toxique ? Attention, je ne dis pas que je n'en ferai pas une généralité, hein, mais je pense que c'est une question sur laquelle qui pourrait nécessiter quand même une certaine attention.
Bah, Laurane, tu as raison, mais sauf que dans l'exemple de Idir, là par exemple, le mec qui fait des blagues reloues ou qui va faire du harcèlement moral ou sexuel, je crois qu'il n'y a même pas de grille de lecture à un moment.
Non, là je suis déconnectée, hein, pardon, je ne l'ai pas mentionné.
Non, mais complètement. Mais je comprends ce que tu veux dire.
Complètement cette réflexion, au regard de ce qui a pu être dit. Hein. Donc, il n'y a pas de... C'était pas lié, hein, du tout.
D'accord, non, mais c'était pour réagir à ce que tu disais. Oui, on a des grilles de lecture différentes et on va être plus ou moins sensible à certains sujets. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont communs, parce qu'une société, par définition, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble suppose d'avoir des règles communes. Donc, avant de te donner la parole, Hervé-Charles, sur la question de est-ce qu'il y a des entreprises toxiques, on va dire bienvenue à mon cher Benoît. Alors, Benoît, comment vas-tu ?
Je vais très, très bien. Et j'ai Bob qui a été très toxique, qui m'a obligé à faire des tâches. Je n'ai pas pu arriver avant. Mais j'aime Bob malgré tout.
Mais tout à fait, Bob qui est le pire manager du monde, je le rappelle. Alors, Hervé-Charles, l'entreprise toxique par essence, est-ce que ça existe selon toi ?
Oui, ça existe.
Non, y est, je vais avoir le moral dans les chaussettes. Vas-y, raconte-nous.
Mais non, du tout. Oui, ça existe. Alors, tu sais qu'on intervient sur les risques psychosociaux, donc l'accompagnement, l'anticipation. Et ce que j'ai entendu dire, malheureusement, je l'entends régulièrement. Et alors, c'est une femme parmi les hommes, mais je l'ai vu aussi d'un homme avec les femmes. C'est-à-dire que c'est pas forcément très macho, etc., ces blagues. Il y avait un sketch de Florence Foresti qui avait inversé, en fait. C'est un comité de direction féminin et, en fait, tous les salariés, entre guillemets, on va dire N-12, étaient des hommes. C'est un peu ça, ça se trouve dans les deux cas de figure. Par contre, ce que je peux dire, c'est la phrase qu'on entend régulièrement, « Oh, c'est pas méchant », ou alors « On l'a déjà fait, ça vole pas très haut, si, ça peut voler haut ». Et ce que je pourrais dire, surtout à y dire, c'est que, il doit exister un service RH, alors moi, effectivement, les RH, ça me connaît un tout petit peu, c'est qu'il doit exister un service RH. Et puis que si ça sort, effectivement, il y a des éléments qui sont répétitifs, eh bien, il y a simplement quelque chose qui s'appelle le droit pénal. Et le harcèlement moral, alors en plus, il va être amplifié à partir de mars 2022, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes les entreprises en France vont être soumises à des mesures assez drastiques sur le harcèlement moral et sexuel. Donc, elle doit avoir un service RH. N'oublions pas que l'entreprise est responsable de ses collaborateurs, la santé mentale, physique.
Ouais, et Hervé-Charles, j'imagine que toi, tu l'as vu et constaté. À partir du moment où tu fais un mail très posé, très calme, en disant « je pense qu'on peut parler de harcèlement moral et ou sexuel dans ma situation », les RH et les directions en général réagissent très vite parce que le harcèlement moral, ça peut faire très, 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 très mal.
Absolument. Et c'est toujours la même chose, c'est de répondre posément. Il ne faut pas oublier, c'est le préambule de tout à l'heure, il faut cesser d'alimenter. Quand il n'y a pas de prise, en fait, les vrais toxiques, le pervers de tout à l'heure qui était évoqué, à partir du moment où on ne l'alimente pas, il va finir par s'éteindre tout seul. C'est vrai que la dernière piqûre, il peut essayer d'être un peu plus haut en ton. Mais à partir du moment où on n'a pas de réaction, il s'assèche. C'est à peu près ça à l'image. Maintenant, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'à partir du moment où on fait un mail en disant « voilà ceci, tel propos », il me semble que ça relève du pénal. J'aimerais bien un entretien avec le service, j'en sais rien, direction, service ressources humaines, pour échanger. En règle générale, ça bouge assez vite. Soit on est convoqué et on me dit « c'est pas très méchant » et dans ce cas-là, on réexplique les règles. Et parce que soit effectivement, il y a une convocation du collaborateur.
Ouais, complètement. Alors, je vois que tu claques le micro, je te donne la parole tout de suite, je t'en prie.
Je veux juste rajouter quelque chose. En fait, il faut penser à quelque chose. Moi, j'ai déjà assisté à ça et j'en ai parlé à mes collègues parce que moi, par mon manager m'avait dit en bonus que comme j'avais pas de famille et pas de famille, c'était normal que je sois moins payé. Tu vois, j'avais adoré cette technique.
Oh, l'horreur.
Et j'en ai parlé à mes collègues et en fait, je pense aussi qu'il faut que les hommes et les femmes, quand quelqu'un nous raconte cette histoire pour rire en disant « j'y vais ou j'y vais pas », il faut soutenir cette personne parce que je suis à peu près sûre que c'est à peu près quand tu es dans une boîte et que tu envoies un mail. En fait, c'est malheureusement en France, c'est mal vu de dire ce genre de choses, alors que ça ne devrait pas. La honte devrait être du côté du mec qui fait des blagues à deux balles et même des blagues pourries. Toi, même moi, je dis des blagues pourries parce qu'on l'a tellement intégré dans nos idées de femmes que c'est des blagues pourries qu'on se dit on passe avec. Et en fait, il faut que les personnes qui soient témoins de ça soutiennent cette personne et lui disent... parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, moi, pour avoir vu des gens le faire, c'est que quand tu le fais, comme par hasard, tu as une omerta qui sort d'un coup et plus personne n'est témoin de rien. Donc, genre plus tout le monde a Alzheimer en 45 secondes. Et donc, je pense que c'est important quand vous êtes un homme ou une femme et que quelqu'un vous raconte cette histoire pourrie qui lui est arrivée cet après-midi, qu'elle vous dit « Oh, j'aurais dû le dire au RH, mais bon, j'ai pas envie que ce soit noté dans mon dossier, que ma carrière soit finie », que vous lui dites « Je t'encourage à le faire, et si tu veux, je pourrais témoigner de ce que tu as vécu, ou même un soutien moral ». Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, quand j'ai eu ça, j'en ai parlé à plusieurs femmes, et elles m'ont toutes dit « Bah écoute, c'est ton choix, mais moi je le ferai pas ». ou alors vas-y, mais voilà, mais je sentais que j'allais toute seule, bah, du coup j'ai fermé ma gueule, tu vois. Et donc je pense que c'est hyper important, quand vous êtes témoin d'une situation comme ça, de soutenir la personne, parce qu'en fait, malheureusement en France, quand tu envoies quelqu'un au prud'homme, c'est rare, même si tu gagnes et que c'est très clair à la fin, déjà pendant 4 ans, tu es considéré comme la connasse qui a envoyé un mec au prud'homme. Quand par hasard tu gagnes, on te dit, ouais, mais elle, elle est procédurière, donc c'est bon. Et en plus, il y a plein d'industries où le monde est hyper petit. Et quand tu as mis quelqu'un au prud'homme, moi j'ai plusieurs amis qui ont des preuves très claires qu'elles ont été payées genre 20 000 euros de moins que les mecs de leurs équipes. Et elles ont contacté d'autres personnes du domaine qui ont fait des prud'hommes et qui ont gagné. Elles lui ont dit, si tu es capable de tenir pendant 5 ans en te faisant traiter comme un chien et de dire au revoir à cette industrie, vas-y. Sinon, laisse tomber.
Mais c'est très important ce que tu rappelles, c'est effectivement, parfois quand on est victime de harcèlement moral ou sexuel, ou qu'on est victime de quelqu'un de toxique, on se sent seul, et ça reboucle avec ce que nous disait Laurane sur le côté, je me sens seul, et on a une responsabilité collective. Moi, je rappelle quand même un truc, je vais faire un tout petit peu de rappel de vocabulaire. Nos grands-parents, quand ils parlaient de leur travail, ils parlaient de leur société, de leur entreprise. Non, de leur société. Après, nos parents, c'était « je travaille dans une entreprise », et là, nous, notre génération, enfin, depuis une vingtaine d'années, on travaille dans une boîte. Juste pour rappel, une boîte, c'est quand même le truc dans lequel on va finir tous et toutes à la fin de notre vie. On est passé donc de société, lieu de vie avec des règles communes, à entreprise, à boîte. À un moment, c'est de la responsabilité, et notamment des mecs, notamment des hommes, et dans les conférences que je donne sur le sexisme, j'en parle sans arrêt. Moi, si je suis à la machine à café et que j'entends un manager, mais ça peut être le pape qui fait une blague sexiste à une collègue ou à une collaboratrice, c'est de ma responsabilité de parler au type en disant « Écoute, je pense que c'est déplacé comme blague. » Et oui, c'est pas simple, parce que les femmes, malheureusement, vont avoir du mal à avoir une réaction sur ce genre de vanne, parce que Camille, je vais compléter les réactions que tu as évoquées. Une femme qui dirait sur une blague sexiste « Non, mais c'est déplacé », combien de mecs relous vont dire « Ah, oh, mais dis donc, t'as pas d'humour. » Tu vois ce que je veux dire, Camille ?
Ou alors t'es mal baisé au choix.
Ouais,
ou t'as pas d'humour et t'es mal baisé, c'est aussi
une sorte de combo. Mais en fait, c'est vrai que sur le côté toxique, parler, si vous-même vous êtes victime d'un manager ou d'une collègue toxique, je crois, et ça sera peut-être la conclusion, on va faire un petit tour de table là de conclusion là-dessus, je crois que peut-être c'est de sortir de l'isolement. Quelle que soit d'ailleurs la toxicité perçue. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que il y a des choses que je pourrais supprimer de mon environnement professionnel qui amélioreraient mon bien-être et en parler peut-être avec des collègues. Et là, bien sûr, je parle de harcèlement moral et sexuel, c'est une évidence, mais je parle de tous les autres types de harcèlement. Je me rappelle très bien la présidente d'une boîte à qui on bossait, qui était quand même très très chaude sur les emails, je vous en ai parlé tout à l'heure, où à un moment, c'est le conseil d'administration, on s'est réuni, et le COMEX, pardon, pas le conseil d'administration, le COMEX, on était tous d'accord pour lui parler, pour lui dire « faut que ça cesse ». Et elle l'a accepté. Mais on était en groupe au lieu d'être isolé. Donc le fait d'en parler, c'est quand même, je crois que la meilleure arme, c'est d'en parler avec ses collègues, d'en parler avec des gens pour voir si on peut agir de façon collective. Alors on arrive vers la fin de la room, parce que justement je vous parlais du retard tout à l'heure, et moi je suis un hystérique de la ponctualité. Alors si vous le permettez, les petits points verts qui sont mes chers modérateurs bien-aimés, je vais donner la parole à celui qui est arrivé un petit peu en retard, mais je suis sûr que tu avais plein de bonnes raisons. Benoît, est-ce que tu as un mot de conclusion sur ce sujet-là ?
Alors, conclusion, je vais dire tout simplement qu'effectivement, la première chose pour gérer un collègue, et surtout quand c'est un collègue, c'est une chose, mais quand c'est un manager, quand il y a une emprise hiérarchique, c'est effectivement surtout ne pas s'enfermer dans le silence et trouver les bons interlocuteurs qui peuvent permettre soit de déverrouiller, et ça peut être le N+2, de déverrouiller la situation, de poser à plat, tout en sachant qu'effectivement, il y a deux choix. Soit ça aboutira sur un pétage de plomb, voire un burn-out, parce que le côté toxique peut entraîner ce genre de choses. Soit on améliore le process, on rebat les cartes, et des fois il faut une tierce personne pour le faire. Mais il faut surtout pas rester effectivement enfermé avec soi-même, parce que c'est de toute façon pas tout seul qu'on peut trouver la solution. C'est des rapports one-one, et s'il y en a un qui de toute façon estime qu'il est dans son bon droit de faire certaines choses, il faut peut-être par moment lui expliquer par le biais d'une tierce personne qu'il y a des limites à tout, et notamment dans les rapports humains.
Ouais, et c'est vrai que parfois il faut dépasser cette peur pour pouvoir en parler. Alors, Idir, j'ai vu que tu avais claqué le micro, mais on arrive vers la fin de la room, donc là, on est vraiment sur la conclusion, parce que je suis un hystérique de la ponctualité. Mon cher Hervé, Charles, tu avais un petit mot de conclusion ?
Oui, rejoins ce que disait Benoît, effectivement, sur le fait de parler. Et ne pas oublier une chose, c'est que rien ne vaudra votre santé. Rien ne vaudra votre santé, y compris votre job, et surtout pas votre manager ou collaborateur toxique. C'est vous l'essentiel et pas l'entreprise à un moment. Il faut se poser la question.
Ouais, merci Hervé Charles de rappeler ce point qui est effectivement essentiel. Léna, alors je sais que les conclusions, c'est toujours très compliqué, parce que Laurent, c'est toi qui vas avoir le dernier mot, mais donc forcément, c'est compliqué de se renouveler. Alors Léna, est-ce que tu peux rebondir sur ce qu'a dit déjà Benoît ou Hervé Charles ?
Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Hervé Charles. Aucun poste, aucune entreprise ne mérite qu'on meure pour elle. Le bon côté, c'est que quand on ressent du stress, c'est qu'il y a un signe de dysfonctionnement. Donc, au moins, on peut commencer à identifier et à travailler là-dessus pour essayer de créer une relation de qualité, si c'est possible, avec ce collègue ou ce manager. Et si ce n'est pas possible, de chercher d'autres solutions.
Ouais, c'est très très juste. Et c'est vrai, enfin, je le rappelle très très souvent, mais c'est pas toujours simple quand on est dans cette situation. C'est ça qui est terrible, c'est parfois quand on est dans une situation avec des personnes toxiques autour de nous, on finit par pas s'en rendre compte. On s'en rend pas toujours compte. C'est pour ça qu'il faut vraiment parfois faire un point sur sa situation pour essayer de savoir si tout va vraiment si bien, si on est persuadé que tout va bien. Mon cher Emmanuel, un petit mot de conclusion ?
Oui. S'éloigner des personnes toxiques, c'est pour moi accéder au bonheur, et en plus ça améliore notre santé physique mais aussi notre santé émotionnelle. Voilà.
Ouais, et ça c'est vrai, on a tendance à oublier, et là je vais peut-être faire une toute petite digression sur le perso. On a un super pouvoir quand même avec les personnes toxiques dans le perso, c'est moins facile dans le professionnel, c'est de s'éloigner des personnes toxiques. Et il y a des gens qui nous tirent vers le bas. Et je vais donner un exemple, même dans le professionnel, là, le présentiel revient. Je suis persuadé que vous en avez croisé des comme ça qui adorent, à la machine à café, répandre des rumeurs, qui adorent pourrir l'ambiance. Bah, ces gens-là, qui ne sont pas forcément notre manager, c'est assez simple de s'en éloigner. Donc essayez aussi d'analyser les gens qui potentiellement sont toxiques directement ou indirectement, et de s'en éloigner. Donc, tu as raison, Emmanuel. Parfois, s'éloigner, c'est pas mal. Et je crois que c'est Léna qui avait rappelé qu'on a un super pouvoir in fine, si vraiment on n'en peut plus, c'est de démissionner. Ma chère Laurane, tu sais que c'est toi qui as le vrai total mot de la fin, en fait. Hein.
Oh là là, mais quel honneur.
Et ouais, quelle pression, surtout.
Quelle pression, non. Deux points. Bah, le premier, c'est un peu ce qui vient d'être dit quand même, mais c'est que vous êtes votre priorité. Ça, c'est, je pense, un essentiel et qu'on a tendance à oublier énormément parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. En fait, on a toujours été tourné vers l'extérieur et jamais vers notre intérieur à nous. Et donc ça, je le répéterai jamais assez, mais nous sommes notre propre priorité à nous. Et pour ça aussi, il faut sortir de l'isolement, et ce qui a été dit. Et en effet, que c'est pas simple. Ça peut être aussi considéré comme une double peine, c'est-à-dire qu'on subit quelque chose qui est très inconfortable, et en plus, le fait de subir ça, eh ben on nous demande de sortir de l'isolement, donc ça va nous obliger à une confrontation et de verbaliser une situation qui est très inconfortable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne le fait pas. Mais ne pas faire, c'est pire que tout, en fait. Et ça rejoint une room un jour qu'on a vue sur l'échec. L'échec, ça serait peut-être de ne rien faire. Voilà.
C'est très juste. Ben, merci pour ce mot de la fin. Eh bien, écoutez, les amis, merci d'avoir été là aussi nombreux. Alors, pour rappel, si vous êtes arrivés en cours ou que vous n'avez pas tout entendu, cette room sera donc en replay sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, enfin, toutes les plateformes à partir de dimanche matin. Mille merci d'avoir été là. Je n'ai toujours pas préparé le sujet de la semaine prochaine, mais petite information quand même qui a son importance. Si vous souhaitez commencer votre journée de bonne humeur, on va faire un petit test pendant un mois. Happy Work sera en matinale de 7h45 jusqu'à 8h15 avec comme idée de vous montrer le verre à moitié plein des infos. Donc, si jamais on a des bonnes nouvelles, on partagera des bonnes nouvelles, de donner des petits conseils pour bien commencer votre journée de boulot. Donc, c'est Happy Work du matin, histoire d'essayer de se mettre de bonne humeur pour commencer la journée. Donc, les amis, mille merci encore une fois d'avoir été là. Merci Laurane, merci Emmanuel, merci Léna.
Merci
Hervé Charles et merci Benoît de m'accompagner dans cette aventure Happy Work sur Clubhouse. Mille merci Idir d'être monté pour parler avec nous, et que vous dire d'autre que Je vais finir exactement comme avec le podcast Happy Work du même nom. Chers amis, avant toute chose, plus que jamais, prenez soin de vous.
Prenez soin de vous.
Et j'adore quand je le dis avec ma voix un peu, tu sais, bah, prenez soin de vous. Allez les amis, je vous souhaite un excellent week-end.
Bon week-end.
Et je ferme cette room dans 3, 2,
bon
1. Gros bisous tout le monde. Ciao les amis. Ciao.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.